Bonsoir Charles Pépin.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Quel enthousiasme de commencer 2026 avec vous.
On va voir.
Et on va voir, on va voir. On espère fortement, parce que donc où trouver la force et autres questions existentielles est sorti aux éditions Alary. Qu'est-ce qui vous anime dans la philosophie ?
Qu'est-ce qui m'anime ? On commence fort. Si je me souviens de quand j'ai découvert la philosophie au lycée. C'est la même réponse. Ce qui m'a animé tout de suite, je crois, c'est de me sentir pas seul, en gros. De me sentir avec d'autres, traversé par des questions, des angoisses existentielles, des problèmes philosophiques, et de me dire qu'effectivement, on est ensemble quoi, dans ce questionnement. Et puis, très probablement, mais ça, c'est plus personnel, et c'est peut-être pas nécessairement un des mobiles le plus partagé pour faire de la philosophie, mais une propension à traduire immédiatement, à chercher immédiatement dans la philosophie, dans les propos des philosophes, des réponses aux choses que je traverse à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Donc c'est assez particulier. J'ai toujours fonctionné comme ça, en cherchant de façon très utilitaire, au fond, très instrumentale, sans sacraliser les grands philosophes.
Donc finalement.
J'ai un surmoi assez faible, en fait. J'admire pas beaucoup les grands philosophes, j'admire beaucoup les grands écrivains, j'admire les musiciens, les chanteurs, les chanteuses. Les philosophes me font pas trop peur. Je cherche à prendre dedans ce qu'il y a à apprendre. Vous voyez, j'ai un rapport assez décomplexé à la philosophie.
Une boîte à outils, un peu.
Quand même pas, je dirais pas jusque-là. Mais disons que quand je lis Proust, j'ai l'impression d'être face à un dieu qui sait tout, qui voit tout, qui a une profondeur de vue éblouissante. Et quand je lis un philosophe même très impressionnant, comme Bergson, je suis moins impressionné. J'ai l'impression que cette espèce de d'armature comme ça, conceptuelle... Enfin, quoique Bergson, c'est pas un bon exemple, parce qu'il écrit quand même parfois très bien. Mais un philosophe comme Alain, qui écrit pas mal aussi, voilà, j'ai moins de surmoi en philosophie qu'en littérature.
Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose d'inné en vous dans ce rapport à la philosophie, que ça vous semble plus familier
que la littérature?
Oui.
Non. En fait, mon premier amour, c'est la littérature. J'ai commencé par écrire des romans et j'en ai écrit un. On avait parlé ensemble d'ailleurs, La Joie, il y a
Absolument.
Quelques années. Et là, j'ai un projet littéraire qui revient. Et en fait, ma langue naturelle, c'est plutôt la littérature. Mais je suis tombé dans la philosophie en étant prof de philo. Et aussi, c'est la vie, c'est très sartrien, où, au fond, c'est le retour aussi, c'est la relation que j'ai au lecteur. Quand j'ai écrit de la philosophie, j'ai tout de suite eu des lecteurs, et ce n'était pas le cas quand j'écrivais des romans. Donc évidemment, et aussi quand j'étais prof de philo au lycée, quand je faisais des conférences, il s'est tout de suite passé quelque chose de très particulier, comme une rencontre, quoi. Comme si ma façon de parler touchait les gens. Et donc, je suis allé de ce côté-là parce que la vie m'a appelé. Mais j'ai commencé par la littérature et par écrire des choses que personne ne lisait.
Mais quand même, ouais. Vous êtes en train de dire que tout est philosophie assez naturellement pour vous dans
oui,
votre
vrai.
Rapport au
Complètement.
Quotidien.
Complètement, oui. Complètement. C'est-à-dire que je me pose des questions philosophiques tout le temps. J'essaye de traverser ma quotidienneté avec des distinctions philosophiques tout le temps. Et surtout, je lis les philosophes avec ce regard existentiel, un peu comme beaucoup de philosophes grecs étaient comme ça, ils nous proposaient des manières de vivre, hein, comme le montrait le grand helléniste Pierre Hadot. La philosophie était présentée en Grèce comme une, loin d'être simplement une spéculation théorique, une manière de vivre. Et j'ai toujours reçu la philosophie comme ça. Mon prof de lycée, Bernard Clerté, en terminale, était très hégelien, mais pour lui, il s'agissait de vivre Hegel. Il s'agissait d'avoir un rapport hegelien à la reconnaissance, un rapport hegelien au travail, un rapport hegelien au rapport aux autres, au regard des autres, pardon. Et j'ai toujours recherché dans la philosophie des manières de vivre, ouais. des conseils existentiels en quelque sorte. Mais c'est plus qu'un conseil, c'est vraiment une philosophie de la vie, voilà.
Vous avez l'impression.
Mais attention, je voudrais être un peu précis.
Pardon.
Allez-y. Vous êtes précise dans vos questions. J'ai aussi une partie de ma vie où j'ai passionnément aimé la spéculation théorique. Totalement décorrélé de l'existence pratique. Notamment, j'ai étudié beaucoup la théologie rationnelle, donc les preuves de l'existence de Dieu chez saint Anselme ou chez Descartes. Je vous recommande d'ailleurs le Proslogion de saint Anselme, qui est un livre pas mal sur si vous ne croyez pas en Dieu et que vous voulez en voir une démonstration rationnelle, celle-là est la moins ridicule, on va dire. Et donc j'ai aussi aimé beaucoup la spéculation théorique dans mes études de philosophie, mais vous avez raison, mon premier rapport à la philosophie, il est pratique, il est existentiel. Je cherche des réponses, quoi.
Mais du coup, j'ai envie de vous poser plein de questions, là. Ça tombe bien, on a une heure. Mais du coup, ce que vous aimez aussi dans la philosophie, c'est à la fois ce rapport assez naturel au quotidien philosophique, ouais, on pourrait dire, d'une part, et d'autre part, ce que ça engendre comme lien aux autres pour vous. Parce que
c'est ce que... Oui, bah, c'était un peu compliqué. On est parti sur un terrain très glissant. Oui. Ah. C'est pas grave.
Ah bon ?
Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me...
Pourquoi glissant ?
Mais parce que ce que je vais vous dire peut être surprenant. Moi, je me voyais pas vraiment philosophe. J'étais prof de philo parce que je trouvais que c'était un métier sympa et que ça me permettait de faire plein d'autres choses. Du journalisme, de la littérature. J'avais des projets d'entrepreneuriat. Donc pour moi, ce métier-là était un métier.
Entrepreneuriat de quoi ? Vous vouliez monter une boîte de quoi ?
J'ai fait des choses, des boîtes de formation en entreprise. J'ai été professeur de lecture rapide. J'ai une petite boîte de conférences. Voilà, donc ça, j'ai toujours été intéressé par cette dimension entrepreneuriale. J'ai quand même fait HEC avant de passer à l'agriculture.
Oui, oui. J'ai cru que vous aviez pensé à un projet pour monter une start-up, quoi.
Non, quand même pas. Non, j'avais pas cette ambition. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis devenu prof de philo surtout pour écrire des romans et être journaliste. J'étais critique littéraire quand j'étais jeune dans un journal qui s'appelait Technicard. Et ma passion était surtout la littérature. Et en fait, c'est vrai que j'ai été rattrapé en fait par ce métier, et je me suis, je m'y attendais pas. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette peau de façon très très évidente, très simple, mais c'était pas ce que je recherchais. Et donc, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que j'ai écouté ce que la vie me renvoyait, mais qui n'était pas prévu. Je dis pas que j'ai pas eu la vocation de faire de la philosophie. Pour moi, ce métier prof de philo, c'était plutôt un métier pratique pour faire autre chose.
Est-ce qu'elle vous renvoie un lien aux autres fort?
Alors, c'est un lien aux autres, et c'est même plus précis que ça, et c'est encore plus compliqué à expliquer. C'est un lien presque un peu thérapeutique. C'est-à-dire que les gens me disent tout le temps, ça me fait du bien, ce livre me fait du bien, il m'a permis de régler ce problème, j'avais ce problème en thérapie pendant des années, et puis là, vos livres m'ont aidé. Et j'avoue que c'est très compliqué pour moi d'entendre ça, pour toutes les raisons que je vous ai dites précédemment. Mais moi, au début, pendant des années, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et même je le refusais. Peut-être c'était une fausse modestie, mais en tout cas, je le refusais. Je dis, écoutez, moi, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis pas chaman, donc je comprends pas pourquoi vous me dites que ça vous aide à vivre à ce point-là. Et puis, avec le temps, c'est ça que je disais tout à l'heure en disant que c'est très sartrien d'écouter le retour, d'être dans la relation aux autres et de dire en fait que ce que les autres voient de vous comporte une part de vérité nécessairement. Et avec le temps, je me suis dit, je vais arrêter d'être hypocrite ou de mauvaise foi ou faussement modeste. Pourquoi on me dit ça tout le temps ? Parce que on me dit ça vraiment tout le temps. Et donc j'ai réfléchi et j'ai commencé à creuser ce sillon en me disant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un livre peut faire du bien ? Et donc j'ai commencé à développer l'art de l'exemple, prendre des exemples qu'on étudie, qui sont très creusés, des exemples de gens qui sont connus dans le monde du sport ou dans le monde de la culture ou dans le monde de la politique. Ensuite, j'ai développé aussi l'idée d'un syncrétisme, c'est-à-dire d'avoir des sciences humaines, de la littérature, de la thérapie, des neurosciences, de la psychanalyse, et de travailler à un mélange assez particulier, en fait. C'est pour ça que c'est pas vraiment de la philosophie au sens classique. C'est plutôt des essais au sens propre. C'est un essai dans lequel on essaie, à partir d'une question qui peut être l'échec, qui peut être le rapport au passé, qui peut être le rapport à la confiance, de prendre tout ce qu'on a en magasin, en philosophie, en littérature, en sociologie, en anthropologie, en neurosciences, en psychanalyse, et de dire voilà, on va essayer de tout brasser pour proposer une réponse. Et je pense que c'est peut-être ça qui aide les gens. Et c'est aussi que c'est un rapport assez décomplexé. On va pas être comme ça, en disant non, ça me dérange pas de mettre sur le même plan Bergson, Zlatan et Lacan. C'est pas que je pense qu'ils se valent, c'est pas relativiste. C'est juste que moi je prends tout au service de la question que je pose. Et donc c'est vrai que si, pour prendre un exemple concret, si la question c'est comment bien vivre avec son passé, comment emmener son passé, si douloureux soit-il, avec soi vers l'avenir, et on avait d'ailleurs discuté de ça ensemble, je me souviens. Si cette question c'est ça, eh ben, il va y avoir un concept chez Bergson très, très éclairant, qui est la récapitulation créatrice. Il va y avoir un concept très important aussi chez Freud sur l'héritage, pour reprendre les exemples que je disais. Et puis, il y a effectivement ce but de Zlatan que je détaille, qui est une aile de pigeon retournée, et qui est un but incroyable, qui a marqué l'histoire du foot, qui est présenté comme un des plus beaux buts de tous les temps. Et il me semble que pour bien comprendre le concept bergsonien de récapitulation créatrice, comment on ressaisit tout un passé, tout un héritage, toute une expérience dans un geste inouï pour aller de l'avant, et bien que ce but de Zlatan, il est nécessaire pour comprendre le concept de Bergson. Et évidemment, c'est aussi un prof de lycée qui parle. Parce que quand vous êtes prof, moi j'ai été prof de lycée pendant 25 ans, et quand vous êtes prof, c'est l'exemple qui marche. C'est ça qui est très dur à trouver en philosophie, dans un cours de philosophie au lycée, c'est de trouver le bon exemple. Et souvent, les profs qui sont jeunes profs, même moins jeunes et qui sont très bons, beaux parleurs, au moment de l'exemple, ils se plantent. Parce que l'exemple ne marche pas. Et d'ailleurs, quand on est inspecté en philosophie, les inspecteurs savent très bien que c'est l'exemple qui est le point nodal, qui est le point où on voit si le pédagogue sait faire son métier ou pas. Et du coup, bah là, pour reprendre cet exemple de l'aile de pigeon retournée de Zlatan, en fait, quand on détaille le but, soudain, ça parle. Soudain, ça éclate et quelque part, on comprend les choses.
Et c'est la raison pour laquelle vous livrez dans ce livre 50 questions à peu près, qui sont des questions qu'on vous pose souvent. C'est-à-dire que dans ce lien-là, à un moment donné, vous avez récupéré des questions qui sont un peu en boucle. Ces questions, quand même, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de clichés, non ? Voilà, les gens, ils tournent autour des mêmes sujets.
Alors, c'est de clichés, vous voulez dire quoi ?
Ben, il y a beaucoup de clichés. Donc, vous abordez les clichés, l'herbe est plus verte ailleurs. La méchanceté est gage de réussite. Sur quoi vous répondez ? Alors non, plutôt le talent.
Oui, oui.
Ça fait beaucoup rire, cette petite blague.
Alors, en fait, je vais répondre... C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 25 ans, en gros, entre le lycée, je réponds aux questions dans Philosophie Magazine, je répondais même aux questions dans Femmes Actuelles, il y a longtemps, aux questions des ados, je réponds aux questions sur France Inter, et puis j'ai répondu aux questions des élèves pendant 25 ans. Et donc, j'ai vraiment pris les questions qui reviennent le plus, et qui reviennent le plus dans tous les milieux sociaux et dans toutes les générations. Alors, je trouve pas que ce soit des clichés, c'est plutôt des phrases de la sagesse populaire qu'on va pouvoir questionner. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Est-ce qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler ? C'est pas tellement un cliché, c'est une pseudo-évidence de la sagesse populaire. Et ce que je montre, c'est que dans certains cas, elle comporte une vérité, une vérité philosophique forte. Donc dans ce cas-là, c'est pas un cliché au sens négatif. Par exemple, quand les gens disent qu'être joyeux, c'est être fou de joie, bah, c'est une expression de la sagesse populaire, une expression du sens commun, et elle comporte une charge philosophique très puissante. Donc dans ce cas-là, le sens commun, il est philosophe. Mmh. Et puis, il y a des phrases, ces deux exemples qui sont dans le livre, « tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler », qui ont l'air intelligentes, parce que c'est comme s'il fallait bien réfléchir avant de parler, et je montre que c'est pas intelligent du tout, que c'est là une façon de traumatiser les gens, de les enfoncer dans un perfectionnisme contre-productif, et que la vérité de la pensée vient en parlant. Et donc, dans ce cas-là, je casse complètement l'idée implicite. Mais ça dépend des cas. C'est important, parce que souvent, les philosophes, ils ont toujours la même attitude. Ils disent, voilà, on va prendre... Les profs de philo font souvent ça au lycée. Ils disent, on va avoir une question. On va d'abord examiner la réponse du sens commun, qui est un peu un cliché ou un lieu commun. Et après, on va montrer qu'elle est fausse, et on va montrer que la bonne réponse philosophique, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le plan A, non A, B. A, c'est le sens commun. B, la partie 2, c'est de montrer que le sens commun est un peu débile. Et la partie 3, c'est de dire un truc très intelligent. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Puisque dans bien des cas, vous allez dire que c'est démagogique, mais dans bien des cas, la sagesse populaire, elle comporte une vérité profonde. Mais simplement, il y a des cas où c'est pas le cas, où il faut la déconstruire. Mmh. Et donc, le fait de reprendre les questions qui reviennent le plus souvent, ça me permet de me confronter à cette question. Est-ce que la sagesse populaire véhicule une pensée philosophique puissante, comme dans le cas de la joie, ou est-ce que, comme dans le cas du langage, elle ne véhicule pas, pour le coup, un cliché qu'il faut absolument démonter, déconstruire, pour pouvoir penser et parler librement ?
Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces 50 questions ? Qu'est-ce que ça vous raconte du monde ?
Oui, alors ça raconte que les gens sont vraiment inquiets. Notamment, la question qui revient le plus depuis quelques années, c'est comment aller bien dans un monde qui va mal ? C'est quand même dingue à quel point cette question revient. Et vous savez, et ça montre... En fait, souvent, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, je montre que les questions sont des réponses. qu'elle comporte la réponse, notamment dans la récurrence de la question. Je m'explique. Si les gens sont si nombreux à se demander comment aller bien dans un monde qui va mal, et à appeler sur France Inter pour poser la question, ou à envoyer la question à Philosophie Magazine, c'est bien que, pour eux, il est impossible de penser le bonheur simplement dans le repli, en fermant les volets sur le fracas du monde, pour vivre heureux, vivons cachés, vous connaissez peut-être ce petit conte du 19e siècle. Eh bien, cette idée-là, si c'était leur conception du bonheur, que le bonheur est une affaire privée, que pour être heureux, il faut ne pas être dérangé, alors ils ne poseraient pas la question. Mmh. Et donc, ce que je montre souvent, c'est que la simple existence d'une question, dans sa récurrence, dit quelque chose, d'abord de l'époque, évidemment, mais aussi de la réponse. En l'occurrence, qu'il n'y a pas de bonheur humain sans habiter le monde, qu'il n'y a pas de bonheur humain sans une relation au monde et aux autres, et sans une manière, finalement, d'habiter le monde comme on habite sa maison, comme on est au monde, et que, évidemment, quand le monde va si mal, quand il brûle, quand il est traversé par des invasions, des guerres, des déplacements de population et des feux liés au réchauffement, il est très difficile de trouver sa place dans ce monde-là.
Et la place, c'est... Alors moi, l'impression que j'ai eue vraiment sur ce livre, c'est la question centrale. On a la sensation quand même à travers toutes ces questions que la grande interrogation, c'est de trouver sa place individuelle dans le collectif, de trouver sa place aussi dans l'équilibre, parce qu'il y a beaucoup de chapitres où vous dites, alors attention, le perfectionnisme, c'est pas l'indépendance, enfin il y a beaucoup de questions de vocabulaire autour aussi de la place. Et on a l'impression, comme vous le dites, que la question c'est la quête d'une forme de liberté, mais en même temps on n'ose pas trop y aller parce que les autres ils y vont pas forcément. Est-ce qu'il faut un modèle aussi? On a l'impression, mais quand même, ça c'est une question que je vous ai déjà posée, Gérard Pépin, celle de la place.
C'est vrai, et c'est très compliqué parce que la définition du bonheur chez les sages anciens, c'était de trouver sa place dans le cosmos, et le cosmos était présenté grosso modo comme un cosmos limité, clos, fini, chez les Grecs anciens notamment. Et donc cette conception du bonheur, elle est très compliquée. D'abord, quand on est passé d'un cosmos clos à un univers infini, ça c'est le passage de l'Antiquité à la modernité. Il y a un très bon livre d'ailleurs d'histoire des idées que je vous recommande là-dessus, qui est le livre de Alexandre Coiré, qui porte pour titre « Du monde clos à l'univers infini ». Et Alexandre Coiré nous montre que c'est pas facile de trouver sa place dans un univers infini, de surcroît en expansion infinie, et de surcroît déclenché par un Big Bang dont on ne comprend ni la raison d'être, ni même l'origine. Et en plus, quand au-delà de cet univers infini, on a un monde qui est menacé de finir, dont on ne prend pas soin, alors évidemment il est difficile de trouver sa place. D'où la question qui revient, mais comment je vais être heureux, comment je vais aller bien dans un monde qui va mal? Après, on pourrait rentrer dans la réponse, mais ce serait un peu long. Mais en tout cas, il y a un élément de réponse qui est de dire que d'essayer de le réparer un peu, c'est une façon d'être heureux, d'essayer, comme le disait Camus dans son discours de réception du Nobel, d'empêcher que le monde se défasse, c'est aussi une réponse. Et puis, il y a aussi cette joie paradoxale dont parle Clément Rosset, et qui est une joie contrariée, une joie menacée, une joie entravée. Autrement dit, ben je sais que ça ne va pas, mais j'ai le droit d'être joyeux quand même. Je ne suis pas heureux, parce que le bonheur est une sérénité durable, mais il y a la possibilité d'émotions de joie, comme ça, de surgissements de joie, qui viennent me dire que je suis joyeux bien que, je suis joyeux alors que, je suis joyeux malgré. Et ça, c'est la très belle idée de Clément Rosset, de joie contrariée, qu'on trouve dans cette petite bombe très, très, très dense qui s'appelle la force majeure et que je vous recommande aussi.
Et cette joie, elle est accompagnée du mouvement. Parce que dans votre livre, ressort aussi que vous mettez beaucoup en avant le mouvement. La danse, le vélo.
Ouais.
En fait, il faut être en mouvement. Que le fait d'être statique, finalement, ne nous permet pas de trouver notre place.
Alors, c'est un peu plus compliqué. Disons que... il faut peut-être faire un tout petit peu de métaphysique pour essayer de répondre à cette question. Ça dépend si la vérité ou Dieu ou l'absolu est immobile ou mouvement. C'est sûr que à l'origine de la philosophie grecque, il y avait l'affrontement de deux grands présocratiques, Parménide et Héraclite. Parménide qui dit que l'un est absolument immobile et éternel, et Héraclite qui dit que la vérité c'est le mouvement, le fleuve, etc. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et beaucoup de philosophes qu'on aime bien dans la modernité, Nietzsche, Sartre, Hegel, ils sont plutôt héraclitéens. Donc dans ce cas-là, Bah, c'est vrai que c'est pour ça que ça fait du bien de se mettre en mouvement. Et parce que peut-être on retrouve la vérité dernière du monde, ce que dit Nietzsche aussi, que la vérité du monde, c'est la danse, c'est le mouvement, c'est le rythme, etc. Mais on peut quand même penser que la sagesse, c'est aussi de retrouver une forme d'immobilité dans le mouvement. Voilà. Donc c'est une question plus compliquée. Mais c'est vrai que, pour faire plus simple, dans ce livre, je parle beaucoup de se mettre en mouvement, de ce que c'est que l'action, pourquoi l'action nous fait du bien, même quand elle est ratée, d'ailleurs. Pourquoi l'action soulage de l'angoisse bien plutôt que la réflexion. Et pourquoi ça nous fait tant de bien de danser, car c'était une des questions du livre que vous avez évoquées, et qui, figurez-vous, revient très souvent.
Alors, ça, c'est une surprise, quand même.
Quand vous avez eu beaucoup de lycéens... C'est vraiment une question qui revient très souvent. C'est très fascinant de danser.
Non, mais d'accord. Ouais. Mais le fait que la question revienne souvent en vous...
C'est normal, parce que, en fait, c'est quelque chose de très rare. Il y a pas beaucoup de... Il y a quelques animaux, quand même, qui aiment la musique, mais grosso modo, on pourrait presque se demander si la danse n'est pas le propre de l'homme. Le fait de bouger son corps ensemble, en rythme, en musique, c'est très étrange. Et il y a une réponse que j'adore, qui vient de Francis... Wolf, le philosophe Francis Wolf, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Pourquoi la musique ?» et qui dit que dans la danse, dans la musique, on se met en mouvement, mais sans aller nulle part. Et que ça nous guérit de l'espèce d'obsession du but. Ça, je trouve ça très beau. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on est ensemble. Il y a le fait qu'on retrouve son corps. Il y a le fait qu'on est peut-être en train d'être traversé par des rythmes originels, aussi bien le rythme de la vie intra-utérine que peut-être le rythme de l'origine du monde. Nietzsche pense qu'à l'origine du monde, il y a une musique d'ailleurs arythmique, entre parenthèses, et que peut-être dans la musique, on retrouve une vérité métaphysique. Et en plus, tout ça de façon légère, c'est comme une métaphysique vécue dans la légèreté, tout ça dans une forme d'être ensemble, et on l'a tous vécu. Parfois, on a des soucis, on a des problèmes, des échecs, des humiliations... Puis on va danser, ça fait du bien, quoi. Donc c'est pas du tout une question secondaire. Et ça, c'est aussi un angle important de mon livre. C'est que pour moi, il n'y a pas de question secondaire. Il y a des questions qui pourraient sembler plus légères. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est si heureux à vélo? Une question qui est beaucoup revenue récemment en raison de la mutation des villes, en tout cas, parce que à part les grandes villes, ça se passe pas comme ça. Mais néanmoins, pour moi, il n'y a aucune mauvaise question. Il n'y a aucune question qui est superficielle par rapport à une question essentielle. Et ça aussi, c'est un vrai réflexe de prof de lycée. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce métier. Souvent, vous savez, les élèves posent une question et puis les autres se moquent un peu de cette personne. Parce que la question a l'air un peu naïve ou un peu débile ou un peu trop frontale. Et c'est les meilleures questions, en général.
Mais vous dites ça. Vous dites que ce que vous aimez, c'est les questions.
Ouais, j'aime aussi répondre. Oui. Parce que j'ai fait un livre de réponses.
Là, on a bien compris que vous aimez répondre.
Oui.
Mais vous aimez beaucoup la question. Là où elle pourrait être dérangée, vous, elle vous nourrit.
Ah oui, je trouve que souvent, les Français ont un peu peur de prendre la parole en public, et ils ont un peu un problème de confiance en eux, et ils n'osent pas formuler des questions devant les autres, bon, attention tout à l'heure, parce qu'ils ont l'impression qu'on pourrait les juger. Mais moi, j'ai souvent montré à mes élèves qu'il fallait oser les questions les plus naïves et même les plus répétitives. Pourquoi ? Et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, par exemple ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question, elle est sublime. Et souvent, la pratique de la philosophie, c'est de se laisser traverser par une question. Ça, c'est un exercice que je faisais souvent avec mes élèves. Bon, parfois, ça les lassait un petit peu. Je leur faisais répéter une question 40 fois de suite, sans faire autre chose. Et à ce moment-là, on entend plein de choses différentes. On se laisse traverser par la question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que l'être a une raison d'être? L'être a-t-il une raison d'être? Et vous savez, parfois, avec une pensée un peu rapide, un peu mondaine ou un peu trop rationnelle, on dit la question, elle est impossible à trancher, ou alors c'est une fausse question. Mais non, il faut entendre la question. Il faut la laisser résonner. Il faut être traversé par la question. Et d'ailleurs, je m'en rends aussi très bien compte dans mon séminaire que j'ai à Paris le lundi, tous les lundis au MK2 Odéon depuis 13 ans. Je donne rendez-vous à qui veut pour une question de philosophie. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne viennent pas pour la réponse. Ils viennent pour se poser la question. Parce qu'on ne leur propose plus de se poser des questions. Souvent, d'ailleurs, dans le travail, le salariat ou le capitalisme, on n'a pas vraiment l'occasion de réfléchir. On a souvent des métiers très automatiques, très procéduriers. D'ailleurs, c'est selon moi un des problèmes du capitalisme, c'est qu'il sous-emploie l'intelligence humaine. Les gens font des études, ils lisent des livres, et puis ils se retrouvent à bosser, à faire du reporting et à faire des tâches automatiques et à respecter des process. Donc c'est un peu attristant. Et ben, les gens, ils viennent à des conférences de philosophie pour se poser une question, et pas nécessairement pour répondre, mais pour se sentir traversé par l'énergie de la question, et évidemment, la poser ensemble. On est ensemble. Et ce qui est passionnant, c'est que souvent, les réponses vont nous séparer, notamment politiquement ou idéologiquement. Hier, par exemple, dans mon séminaire, je posais la question de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Est-il vraiment différent de celui d'hier? C'est sûr que quand vous rentrez sur ce terrain, tout de suite, la réponse va opposer les gens. Mais la question, elle nous rapproche. Et c'est pour ça aussi que les questions métaphysiques... moi, j'ai l'impression, quand je fais de la métaphysique comme ça, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, que c'est politique, quelque part, même si ça... C'est pas une question sur la démocratie ou sur le libéralisme ou sur le socialisme, mais c'est politique parce qu'on est ensemble. Et en fait, la démocratie, c'est déjà d'être ensemble dans un même lieu à se poser une question. Alors évidemment, la démocratie, c'est de se poser une question politique, mais déjà, on manque d'occasion de se retrouver ensemble autour d'une question.
Vous, ce qui vous intéresse en tant que philosophe, c'est aussi la rencontre de l'idée de l'autre, de sa façon de faire philosophie. Vous avez déjà écrit un livre aussi sur la rencontre, oui. Et on en avait déjà parlé. Donc ce qui vous intéresse, c'est aussi la rencontre de vos idées percutées par celles des autres.
Évidemment. Et c'est surtout comme ça qu'on fait le livre d'après. En général, là, par exemple, mon dernier livre, c'était avant celui-là, c'était « Vivre avec son passé ». Et à la fin du livre, j'avais une idée de ce que c'est que la transmission. Et toutes les objections qu'on m'a faites, elles m'ont fait écrire le livre que je suis en train d'écrire, qui est un livre de réponse. Donc en fait, j'adore...
C'est une question permanente.
Ouais, j'adore... C'est aussi pour ça que... C'est ce que je disais au début en disant que c'est un terrain glissant. En disant je ne me considère pas comme philosophe en un certain sens, mais plutôt comme essayiste. C'est que je propose des énoncés, mais je n'ai pas la prétention ou l'ambition de dire qu'ils sont vrais. Ce sont des propositions existentielles censé déclencher chez les individus des décisions, des actions, des façons de vivre. C'est un peu nietzschéen, en quelque sorte. Nietzsche disait... Alors, il avait plus d'ambition que moi, mais il disait « Il faut que mes énoncés soient comme des bâtons de dynamite qui explosent les existences individuelles. » Autrement dit, que l'énoncé produise des conséquences existentielles. Mais il n'est pas pour autant vrai dans l'absolu. Et donc, du coup, bah, effectivement, de livre en livre, je rectifie la thèse. Et par exemple, le livre que j'ai écrit, « Les vertus de l'échec », c'est un livre où j'étais très, très optimiste, au fond, sur comment l'échec peut nous faire grandir, peut nous faire rebondir.
Et là, vous y revenez, en fait, ouais. D'une autre façon.
Exactement. Et en fait, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'objections, dont certaines m'ont semblé très pertinentes. Notamment que je mettais trop la question sociale. J'avais bien sûr conscience de la question sociale. Je savais très bien que c'est plus difficile de rebondir après un échec quand on vient dans une famille où personne n'a eu son bac sur 5 générations, plutôt qu'une famille de privilégiés, évidemment. Mais quand même, la question sociale n'était pas assez présente. Où il y avait une pensée presque, un libéralisme implicite, visant à dire qu'on va dans la fluidité du rebond s'en sortir. Et finalement, ben moi, j'ai entendu ces objections. Et dans ce livre-là, souvent, je reviens sur les thèses de mes livres passés,
absolument,
en les complexifiant et parfois en étant dans un point de vue assez différent. Et c'est pour ça que le livre me permet aussi de corriger des points que j'ai trouvés imparfaits dans mes livres d'avant. Et c'est un peu la fonction de ce livre aussi. Et c'est logique parce que beaucoup de gens me posent des questions qui viennent de mes livres d'avant. On lit sur l'échec, sur la confiance, sur la rencontre, sur la beauté, sur le passé. Donc logiquement, comme ils m'envoient les questions à moi sur Inter ou dans Philosophie Magazine, c'est beaucoup de questions sur mes livres passés. Donc ça m'a aussi permis de prolonger le travail que j'avais commencé dans certains livres du passé. Et donc c'est un livre un peu particulier pour moi de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il y a des questions qui vous laissent sans voix ?
Il y a quand même la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? C'est quand même une question dure, je trouve. Alors j'essaye d'y répondre, le sentiment amoureux...
Vous tournez autour, hein, dans ce livre-là, la jalousie, la vengeance...
Ouais.
Et puis c'est pas la première fois.
L'expérience du décentrement, mais c'est quand même une question dure. Et j'ai l'impression qu'il y a un mystère du sentiment amoureux qui résiste à l'analyse philosophique. Donc il y a ça. Évidemment, il y a la question de Dieu. où je suis pas très à l'aise pour répondre. J'adore cette question. Je pense que c'est la question que je préfère. L'épreuve de l'existence de Dieu, le sentiment océanique. Comment croire en Dieu sans être fanatique? Comment croire en Dieu? Peut-on croire en Dieu sans perdre la raison? J'adore toutes ces questions. Mais la question de Dieu me laisse quand même sans voix. Parce qu'une fois qu'on s'est ouvert à l'idée de la vraie foi, la foi mystique, la foi en je ne sais quoi, vous voyez ce dont parle très bien Kierkegaard, le saut méta-rationnel de la foi, on n'a pas dit grand-chose. Donc ça, la question de la foi de Dieu, quand même. Et puis, il y a aussi le mal, la question du mal, qui est quand même une question vraiment dure. J'ai beaucoup de questions comme ça. Pourquoi tant de haine?
Mais vous avez un avis sur le mal ou pas?
Non, comme je viens de vous le dire, c'est une question qui me... De voir le mal dont les hommes sont capables, c'est vraiment quelque chose qui donne envie de se taire.
Ouais. Ouais.
Et donc, évidemment, ce qu'on peut faire philosophiquement, c'est essayer de ramer un peu et de dire, voilà, il y a des conditions, des conditions de possibilité du mal, quand l'esprit de ressentiment est instrumentalisé politiquement, quand il y a une souffrance telle, quand il y a de la haine qui est une relecture du passé qui est instrumentalisée pour créer de la haine. On peut toujours poser les conditions de possibilité du jaillissement du mal dans l'histoire. Mais il y a quand même quelque chose d'énigmatique hein, dans le mal. Quand on voit, le djihad, les camps de concentration, là, vous avez vu, il y a 3 jours encore, il y a eu des chrétiens au Congo, je crois, qui ont été massacrés par des djihadistes. C'est quand même dur à penser, franchement.
Et alors,
donc le mal, Dieu, l'amour, la beauté aussi.
Ah, la beauté, vous avez écrit un...
Ouais, mais j'ai écrit un livre entier pour dire que j'arrivais pas. Hein.
Oui.
Ouais. Bah, j'ai écrit un livre entier.
Que vous y arrivez pas, vous y arrivez un peu quand même, parce que alors, sur la beauté, vous avez dit beaucoup de choses.
Oui, je vais vous refaire le chemin du livre rapidement pour que vous compreniez.
Mais parce que j'ai pas tellement l'air de comprendre, finalement, là. Alors, je comprends pas, quoi.
Bah, c'est parce que vous... Non, mais on se comprend. Au sens où,
une chance.
Au sens où il y a évidemment des pistes d'interprétation de ce que c'est que l'émotion esthétique, et il y a des arguments philosophiques pour dire que le sentiment du beau, c'est ça. Et je peux vous le résumer très vite. Il y a une première partie du livre qui est très kantienne, où en gros le sentiment du beau est lié à un sentiment d'harmonie interne de la subjectivité. Après, il y a une deuxième partie qui est très hegelienne.
Ouais.
Dans le sentiment du beau, on accède à des valeurs, à du sens. Après, il y a une troisième partie qui est très freudienne. Il y a un investissement de la libido, une sublimation. Mais après, une fois que j'ai dit tout ça, je confesse à la fin du livre que l'essentiel résiste à l'analyse. Et que devant la jeune fille à la perle, devant un Rothko, ou dans une mélodie, dans la voix de Bowie, il y a quelque chose qui est très dur à élucider, en fait. Quand c'est beau, c'est quand même mystérieux. Et donc, souvent, dans mes livres, à la fin, on arrive à la mystique et on arrive au fait que c'était intéressant, évidemment, de prendre le chemin de la raison, comme si c'était un long chemin et qu'à la fin, il y avait un pont. Et grâce aux arguments rationnels, grâce à la philosophie, on arrive au bout du ponton et puis à un moment, il faut sauter.
Oui,
et là, comme... juste fini, et là, c'est la question de la foi, de l'amour, du sentiment du beau. C'est ce moment où on reconnaît les limites de la raison. Mais pour reconnaître les limites de la raison, il a fallu travailler avec sa raison. Donc je suis pas dans la mystique pure. Mais quand même, voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une phrase de Victor Hugo qui dit « La beauté et le mal ont la même énigme et le même terrible secret. » Une phrase comme ça. Donc c'est un peu ma réponse à votre question. Oui, il y a des questions qui me laissent sans voix. Ou même si j'essaye de faire mon métier de philosophe, de prof de philo... C'est vrai que la beauté, l'amour, le mal, Dieu, la bêtise. En fait, les questions les plus. En fait, la philosophie, pour moi, elle n'est jamais autant elle-même que lorsqu'elle se confronte à des questions qu'elle n'arrive pas à régler. Et sa grandeur, c'est ça. C'est d'essayer de penser ce qui, par définition, menace la pensée. C'est-à-dire le mal, la beauté, le sublime. L'amour, Dieu, l'origine du monde, vous voyez, donc c'est intéressant. Donc en fait, ce que j'arrête pas de faire de conférence en conférence, de livre en livre, c'est de dire, bah, ok, on va jouer, on va essayer, mais ça suffira pas. Et c'est pourquoi je vais chercher la mystique, la musique, la spiritualité, et d'une certaine manière, pour montrer que la philosophie rationnelle est quand même insuffisante pour se confronter à toutes ces questions.
En attendant, vous avez quand même écrit un livre sur la beauté et vous n'avez pas encore écrit un livre complet sur le mal, par exemple, ou le sublime. Bon, alors, donc vous avez quand même approché ce sujet-là, c'est ça ce que je voulais dire, même si je ne comprends pas tout. Mais le ponton, c'est aussi votre prochaine question, de ce que je comprends. Enfin, quelque part, le ponton à la fin du livre, c'est aussi le ponton pour aller au prochain livre et le ponton aussi pour aller vers vos auditeurs. Vos... Ouais. Je vous ai perdu, mais ce n'est pas grave.
Non.
J'enchaîne.
Au contraire, c'est parce que j'étais en train de me dire. De cette métaphore du ponton, c'est on se prépare, mais à un moment on y va dans l'inconnu. Et c'était aussi ma thèse dans mon livre sur la confiance.
Oui, c'est ça. Alors, donc en réalité, votre petite particularité, c'est celle d'être un philosophe qui reste dans le doute.
Ça, c'est sûr que je suis pas dans le système, je suis pas dans l'idéologie et je suis pas dans le fait de dire voilà ma vision, c'est ça. Mais quand même, malgré tout, de livre en livre, je crois que c'est le 16e, se dessine quand même une petite cohérence dans la façon de voir les choses. Mais effectivement, on est dans le champ de ce qu'on appelle la philosophie morale, toute une tradition. Donc c'est pas de la philosophie politique ou métaphysique, c'est la philosophie morale. Alors comment bien vivre, quelles sont les vertus, etc. Et donc j'essaye de dessiner quand même une approche un peu cohérente. Qu'on pourrait résumer comme une philosophie existentielle, une philosophie de l'action et une philosophie de la joie. Mais vous avez raison, avec beaucoup de doutes à chaque fois. Ouais.
Il y a autre chose qui ressort de vos lectures, enfin à force, parce que ça fait un petit moment qu'on se croise tous les deux. Il y a une forme d'optimisme. Et donc, vous savez, quand on me dit, donc chez Charles Pépin le 6 janvier 2026, très bien. J'ai une image en tête, je vous vois comme Isabelle Carré dans Muséo, Musée Bas, de cette fille qui est toujours enthousiaste, quoi qu'il arrive, et même quand on lui dit arrête d'être enthousiaste, et elle répond c'est génial que tu oses me le dire. Et bien, il y a quelque chose comme ça chez vous. Est-ce que la philosophie, c'est une forme d'optimisme ?
Alors, attention, votre question est un peu dure, compliquée, parce qu'en même temps, je suis vraiment exaspéré par les excès de la pensée positive.
C'est-à-dire que... Ah, je ne pensais pas à ça.
Oui, mais...
Je ne pensais pas à la pensée positive,
oui, mais...
je pensais juste au plaisir d'être là.
Oui, non, je suis d'accord avec vous, c'est pour
mais
ça que...
Vous, ça vous renvoie tout de suite à la pensée positive ?
Bah, c'est parce que, dans l'époque d'aujourd'hui, moi, je suis exaspéré par les feel-good books, et je suis exaspéré par une pensée trop optimiste qu'on nous resserre tout le temps, qui me semble un déni de la complexité de la vie.
D'accord.
Et qui me semble très dangereuse pour les gens. Mais en même temps, je suis bien conscient d'avoir une philosophie plutôt optimiste aussi. Donc j'essaye de montrer la différence. Et la notion de joie que j'évoquais tout à l'heure, elle est intéressante. La joie dont je parlais est une joie contrariée. C'est une joie entravée par la lucidité sur tout ce qui ne va pas, sur l'état du monde, sur nos désillusions, nos blessures d'ego, nos humiliations. Donc, optimiste, on peut dire oui, au sens où il y a une force de vie que j'essaye de retraduire, qui peut être soit personnelle, soit, c'est le titre du livre d'ailleurs, où trouver la force, ou même métaphysique avec l'élan vital de Bergson, mais en même temps, pas du tout au sens où on verrait le verre à moitié plein et pas à moitié vide.
Ah oui.
Expression qui m'exaspère parce que je pense qu'il faut le regarder comme il est et ne surtout pas se concentrer que sur le positif parce que si on évite le négatif, il va revenir par un effet boomerang, par un effet rebond. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est dramatique pour la santé psychique d'être dans l'évitement de ses angoisses, de ses ratages, de sa zone de médiocrité. Il faut pas être dans l'évitement. Donc c'est pour ça que la question est un peu compliquée. En revanche, oui, j'essaie.
Je la pose autrement.
Je pense que la vie est quand même une bonne chose.
Est-ce que vous êtes d'une nature enthousiaste et que finalement cet enthousiasme, il se traduit assez naturellement dans le fait de converser, de s'interroger ? Est-ce qu'à cet endroit-là, c'est un endroit de plaisir pour
vous ? Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Non, j'aime beaucoup aussi la rencontre que ça permet avec, en termes presque énergétiques. C'est vrai que quand on rencontre des gens. J'aime beaucoup sentir l'énergie de vie des gens dans leurs questions, dans leur corps. J'aime beaucoup cette rencontre et j'ai l'impression, en effet, pour vous répondre de façon pas trop détournée, que la vie, même quand elle est dure, même quand elle est injuste, est quand même plutôt une bonne chose, que c'est plutôt une chance d'être venu à l'existence. Et j'essaye dans mes livres, mes interventions, enfin toute ma vie de philosophe, j'essaye de faire sentir ça, en effet. Mais pas au prix Oui. C'est un déni de la nuit, de l'obscurité et de tout ce qui fâche et de tout ce qui blesse.
Alors, loin de moi cette idée. Ouais. Est-ce que le fait d'être devenu un philosophe assez connu a changé vos rencontres ? Dans ce livre, vous abordez les vraies rencontres. Je voudrais savoir si ça a changé vos vraies rencontres.
Non, non. Non, non, les vraies rencontres, elles sont plutôt rares. Hein. On ne rencontre pas quelqu'un vraiment tous les jours, quelqu'un qui va vous décentrer, vous obliger à remettre en question certaines idées sur l'amour, des vraies rencontres qui font que vous allez voter différemment, par exemple, que vous allez aimer différemment, que vous allez peut-être croire en Dieu ou cesser d'y croire. Ça, c'est des vraies rencontres, des bouleversements. Par exemple, j'avais eu ça en lisant Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Vous voyez, il y a un moment où Emmanuel Carrère raconte dans Le Royaume comment, étant athée, il a été visité par l'amour de Jésus avant que cet amour ne s'en aille à nouveau. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment traversé, ça m'a déplacé. Le temps, en tout cas, de la lecture, après, je suis redevenu comme avant. Mais ce que je veux dire, c'est que les vraies rencontres, c'est ça. C'est pas des croisements. Du coup, le fait d'avoir une notoriété nouvelle, ça change rien. Voilà, les vraies rencontres sont plutôt rares. C'est difficile de se rendre disponible au surgissement d'une vraie rencontre, parce qu'on a des habitudes, on a des points d'ancrage, et donc la notoriété change rien. Par rapport à ce point de la vie qui est par rapport au fait que les vraies rencontres sont assez rares. D'ailleurs, vous savez peut-être que j'ai adapté mon essai La Rencontre pour Thierry Lhermitte, qui est en train de faire une.
J'ai failli le voir, mais je l'ai loupé.
Qui est en train de faire une tournée en France avec ce texte que j'ai écrit pour lui sur ce que c'est qu'une vraie rencontre.
Il vient à Bordeaux.
Ouais, il va venir à Bordeaux.
Et on l'attend.
Et il parle de ses rencontres avec ses amis du Splendide ou avec son cheval, une rencontre très importante, et à travers ma philosophie de la rencontre. Et donc, la notoriété, ça m'amène des projets comme ça. C'est-à-dire, ça me permet de développer la philosophie dans d'autres champs, dans d'autres lieux. Donc, c'est sûr que le fait que Thierry Lhermitte mette en avant sa vie, et que les Français l'adorent, pour porter ma philosophie de la rencontre, ça pourrait peut-être créer des rencontres nouvelles et faire des petits. Mais au fond... Je vous rassure, je marche dans la rue tranquillement. Ça va, je suis pas encore Mick Jagger.
Ah oui, tiens, Mick Jagger. D'accord.
Bah comme il est vieux.
Est-ce que il y a des pensées qui vous hantent dans ces questions philosophiques?
Ouais, c'est une bonne question, ça.
Je vous remercie.
Oui, quand même la question, évidemment, de la mort, évidemment, et la question du deuil. On a tous vécu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment qui hante quand on est dans le deuil et qu'on se dit, mais qu'à la fois on est dans la perte, on a été confronté à la mort, mais sans rien comprendre de la mort, puisque la mort de l'autre ne nous dit rien de la nôtre. Et donc, évidemment, quand on a une position de philosophe, on a beaucoup de questions sur la mort. Comment on fait son deuil? Est-ce que l'expression « faire son deuil » n'est pas un peu mal placée? Qu'est-ce que le travail de deuil? Et là, ça me hante, et je me sens tout à fait démuni, quoi, par rapport à cette question, tout à fait désœuvré. Alors, je l'ai quand même traité à la fin du livre « Vivre avec son passé », mais je l'ai surtout traité en racontant mes lectures, comment j'avais lu Delphine Horviller, Vivre avec nos morts, ou Alain Sautreau, le psy spécialiste du deuil, ou d'autres. Donc ça me hante pas mal. Et puis quand même, la question de la beauté, malgré tout, où j'avais écrit ce livre, mais il y a longtemps, j'ai toujours été tenté de écrire la suite de ce livre, pour aller plus loin du côté mystique, justement, et pour que votre intervention de tout à l'heure soit encore plus déplacée, puisque pour qu'on comprenne que les éléments d'élucidation... sont quand même vraiment mineurs au regard du mystère. Donc il y a la question de la beauté. Et puis la liberté aussi, bien sûr. Ça, c'est une vraie question qui me... Alors là, c'est pas qu'elle me hante au sens existentiel. C'est moins douloureux à vivre que le deuil ou la mort, ou même la beauté. Mais, pour le coup, en tant que prof de philo, c'est la question qui revient le plus.
Et dans ce livre aussi. Hein.
Ouais, tout à fait. Et pour le coup, on peut plus proposer des éléments de réponse. C'est-à-dire la liberté n'est pas l'absence de contraintes, la liberté n'est jamais absolue. Mais du coup, qu'est-ce qui reste de la liberté? Et à ce stade de mon travail, j'en suis vraiment à défendre la réponse bergsonienne, qui est une très belle réponse, qui dit que, alors je vous la résume en substance, mais c'est dans le livre, que la liberté, c'est ce qu'on ressent quand on pose des actions et des gestes qui nous ressemblent. Non pas qu'on se soit arraché à l'ensemble des contraintes qui nous enserrent, mais qu'au cœur de ces contraintes, on arrive à être soi, sans trop se trahir. Et Bergson nous dit, s'il y a entre vos actions, vos décisions et vos gestes, et vous-même, la même étrange ressemblance qu'il y a entre les œuvres d'un artiste et cet artiste, alors c'est que vous êtes peut-être un petit peu libre. Et j'adore cette idée. Et Bergson dit aussi que la liberté, c'est rare, c'est jamais absolu, mais quand même, quand on a l'impression que ce qu'on a à l'intérieur de soi, et que Bergson appelle la mélodie intérieure de sa subjectivité, quand on a l'impression que notre façon de vivre, concrètement, au quotidien, encore une fois, permet à cette mélodie de s'élever, et qu'on l'entend, qu'on la reconnaît un peu, qu'on arrive à tenir un peu la note de son soi, en fait, la note interne de sa subjectivité, c'est peut-être la liberté, quand même. Alors, c'est pas une liberté totale, hein, mais c'est, ça, donc voilà, ça, c'est une question qui me hante, mais je m'aventure davantage dans une réponse, en tout cas, là.
Et en quoi vous croyez ? Puisque dans ce livre, il est aussi question de foi, de croyance, justement, qui va avec la liberté, hein,
c'est-à-dire... Ouais, ouais, bien sûr.
Et vous, en quoi croyez-vous ?
C'est une grande question, quand même. Je crois en plein de choses. Je vais répondre pêle-mêle. Je crois que la vie est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose. Je crois qu'il y a une forme d'éternité en toute chose, sans croire en Dieu. Alors, d'ailleurs, quand j'ai discuté avec des astrophysiciens, ils m'ont expliqué qu'on avait en nous, dans nos corps, un matériel, des électrons qui viennent du Big Bang, qui ont donc plus de 13 milliards d'années. Donc, parfois, le sentiment d'éternité qu'on a dans une contemplation esthétique, une extase mystique, il a peut-être une assise matérielle. Donc, je crois à l'éternité, ouais. Je crois à l'éternité. J'ai souvent l'impression... Enfin, c'est une croyance, hein, je suis pas sûr. Mais... Un espace s'ouvre parfois dans un moment vécu, dans un moment de relation, d'amour, d'amitié, ou parfois dans une lumière, dans l'éclat d'un ciel. Il y a quelque chose qui me laisse croire en une éternité. Voilà, je crois en plein de choses. Je crois en un amour qui soit pas que névrose. Je crois en la France qui soit capable de pas faire le mauvais choix en 2027. J'y crois encore. Je crois en une histoire, en un récit national qui ne soit pas celui d'une fermeture et d'un repli, mais d'une ouverture à la diversité et d'une France qui libère tous ceux qui posent leurs pieds sur son sol. Voilà, je crois en pas mal de choses. Je crois en la philosophie quand même, et je crois en la littérature beaucoup. Je crois en la musique dans sa capacité à mentir moins que les autres arts.
Voilà. Ça, vous l'avez dit dans La Beauté. La musique, vous y êtes revenu pas mal. Et la famille, vous y croyez, la famille ?
Oui, bien sûr. Pourquoi vous me dites...
Parce que dans ce livre, il est question de la famille, et vous renvoyez sur la généalogie. Je me posais la question. Les psys, parce que vous dites que, effectivement, hein, vos travaux sont assez nourris de pas mal d'autres choses. Ouais. Il y a la littérature, la musique, mais il y a aussi les psys.
Ouais, bien sûr.
Voilà, évidemment. Les psys, enfin, moi, je suis pas spécialiste, mais ils voient un psy eux-mêmes. Ouais. Les philosophes, ils font ça aussi ou pas ? Vous avez un philosophe référent,
Alors, je vais répondre honnêtement. En fait, j'ai failli être analyste, puisque j'ai fait 18 ans d'analyse, et à la fin, c'est devenu une analyse didactique, et j'ai eu cette tentation que j'ai racontée dans mon livre « Les philosophes sur le divan », puisque dans ce livre, le narrateur, c'est Freud, qui reçoit en analyse Platon, Kant et Sartre, c'est une pièce de théâtre, et comme ils sont immortels... par leur pensée, mais je les ai mis immortels dans leur corps et ils doivent se taper leur névrose pour l'éternité. Donc ils sont dans un huis clos, ils vont voir Freud. Mais du coup, ce que j'avais fait dans ce livre, c'est que vu que j'étais moi le narrateur, je me prenais pour mon psy et j'avais attribué mes symptômes à Platon, Kant et Sartre. Et c'était le livre par lequel je pensais devenir analyste. Finalement, j'ai découvert que c'était pas pour moi, que je suis trop agité et pas assez capable d'écouter les gens toute la journée. Et du coup, parallèlement, en raison de mes différents problèmes personnels, j'ai découvert d'autres thérapies. J'ai découvert les thérapies brèves, j'ai découvert la thérapie ACT, j'ai découvert l'EMDR. Donc en fait, je suis très compétent en tant que patient. J'ai 25 ans de pratique. Et en plus, ma compagne est thérapeute et on milite ensemble pour l'intégration des écoles de thérapie pour qu'on arrête de se faire la guerre entre la psychanalyse lacanienne et le comportementalisme, etc. Et donc, je suis très intéressé par ces questions. Donc pour vous répondre, mon référent, ce serait plutôt un psy, quoi, un grand thérapeute qu'un philosophe, ou alors j'irai chercher des philosophes qui aiment la psychologie, et comme évidemment Sartre, qui est génial, il est fou, mais il est quand même génial, et d'ailleurs il est en rivalité avec Freud, comme Bergson, et évidemment, vous savez qu'il y a des philosophes qui sont très anti-psy, qui pensent que la psychologie, c'est un truc de comptoir, il y a aussi des grands écrivains qui méprisent la psychologie, qui disent « never explain, never complain ». Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je voudrais inviter la psychologie dans la littérature et la psychologie dans la philosophie. Et d'ailleurs, c'est ça que j'essaye de faire de livre en livre, c'est d'inventer un genre, en fait, où il y a autant de psychothérapie que de philosophie et de littérature. Alors, je ne l'ai pas encore bien trouvé.
Bon, enfin, vous faites quand même déjà un peu.
Oui, je suis en train. Mais c'est un peu mon but d'auteur, quoi. J'ai envie de trouver ça, de trouver ce genre-là.
Donc, au fond, vous êtes un philosophe assez créatif.
Merci. Merci, peut-être, oui. Ouais, non, j'essaye d'inventer.
Vous êtes un philosophe qui.
Non, j'essaye d'inventer un truc.
Oui. Et puis c'est un travail qui passe par des étapes elles-mêmes créatives, qui passe par du théâtre, qui passe par. Vous disiez tout à l'heure, puis dans ce livre, vous dites que c'est de la. Vous parlez de philosophie pratique. Là, tout à l'heure, vous avez dit c'est une philosophie vivante. Mais en réalité, c'est surtout une philosophie créative, non?
Alors, j'ai eu un petit moment d'arrêt, de surprise, parce que je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Les grands philosophes créatifs, au sens de la vraie philosophie, ils inventent des concepts nouveaux. C'est ainsi que Deleuze définit la philosophie, comme une création de concepts. Moi, je n'ai pas cette ambition. Je n'ai pas créé de concept, j'ai créé aucun concept. Donc, en ce sens, je ne suis pas un philosophe créatif, comme a pu l'être Deleuze ou Derrida, ou des philosophes, ou même aujourd'hui, il y en a qui ont cette ambition. Tristan Garcia, il a cette ambition d'inventer des concepts nouveaux. Moi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, pas encore. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de le faire dans des livres, je n'ai pas bien réussi. Donc, c'est pas en ce sens que je suis créatif. En revanche, pour vous répondre plus honnêtement, en tant qu'auteur, essayiste, oui, j'essaie d'être créatif et d'inventer un genre particulier qui soit autant littéraire que philosophique, mais qui accueille aussi toutes les sciences humaines et beaucoup de psychologie, de psychanalyse et de psychothérapie. Donc, pour moi, les grands anciens, c'est plutôt Diderot quand il écrit La Religieuse, ou évidemment Camus ou Sartre quand il écrit des choses littéraires, ou Vercors, quand il écrit Les animaux dénaturés. C'est des philosophes qui vont vraiment hors du champ de la philosophie, dans du récit littéraire ou dans de la fiction. Moi, c'est un peu ça qui me fait rêver, qui me fait vibrer. Ouais.
Donc, en fait, ce que vous aimez, c'est pas seulement vivre vous-même des rencontres, mais se faire rencontrer.
Ah oui, tout à fait, ouais, bien sûr. J'adore que la philosophie rencontre le théâtre, que la philosophie rencontre la musique. Je fais beaucoup de conférences où il y a de la musique. Quand je fais des conférences sur un sujet, en général, j'ai des invités qui chantent. J'invite aussi des astrophysiciens, comme Étienne Klein ou Christophe Galfard. Donc j'aime bien cette hybridation, mais toujours unie par une seule question. Voilà. Donc quand j'avais fait le dernier grand spectacle où il y avait la chanteuse Flavia Coelho, une chanteuse brésilienne, il y avait une psychothérapeute, et à chaque fois, on venait d'horizons différents, mais la question était la même. Comment on vit avec son passé? Donc c'est un peu toujours pareil, on est réunis par la question, on vient chacun avec son histoire, avec sa compétence, avec son bagage, et on fait vibrer la question, on la laisse nous traverser, quoi.
Et ce sera ma dernière question. Cher Pépin, vous avez parlé tout à l'heure de mémoire, vous avez cité plusieurs fois, bon d'abord on le voit bien, vous avez quand même facilement des références qui vous viennent, bon ça c'est indiscutable, et puis vous avez évoqué des rencontres qu'on a déjà eues ensemble à la session, donc vous avez un très bon souvenir des choses, et en même temps vous défendez aussi le fait d'être pleinement présent à ce qui nous arrive. Dans votre livre, vous évoquez à nouveau le passé, ce n'est pas la première fois. Comment vous conjuguez le passé et le présent pour être à la fois pleinement dans le présent, vous nourrir de ce passé à sa juste place?
C'est une très, très bonne question. Parce que c'est vraiment une question qui fait résonner un malentendu de l'époque. Quand on invite les gens à être ici et maintenant, au présent, comme s'il n'y avait que du présent, c'est pas possible de raisonner comme ça. Une conscience humaine, c'est une conscience qui sait d'où elle vient, qui connaît ses héritages et sa mémoire. C'est ça, l'humanité, c'est d'avoir la mémoire. Et évidemment, il y a le souci de l'avenir, notamment vu ce qui nous guette, vu le péril terrible écologique et climatique. Moi, j'ai l'impression que quand... Enfin, je voudrais blesser personne, mais quand on a des gens qui font de la méditation de pleine conscience, on leur dit « Soyez ici et maintenant, il n'y a plus que du présent. » Et lisez Eckhart Tolle, là, le pouvoir du moment présent. Ça me remplit d'effroi. Parce qu'on va peut-être disparaître dans 80 ans. Et imaginez que les archéologues du futur, qu'ils soient martiens, par exemple, ou de Désia, voient que juste avant de mourir, juste avant de disparaître en tant que civilisation, au lieu de réagir et de se soucier de l'avenir et d'aller chercher dans l'expérience des millénaires passés des clés pour ne pas mourir, parce que tous les empires sont morts. Donc en fait, si vous lisez « Effondrement » de Jared Diamond, vous reconnaissez qu'il y a des choses à faire pour ne pas disparaître comme civilisation. Et au lieu de faire ça, d'avoir la mémoire du passé pour sauver l'avenir, on respire ici et maintenant, inspirer, expirer, il n'y a plus que du présent. Et on va être figé dans l'apocalypse finale. Et les archéologues du futur, venus de l'espace peut-être, nous verrons en train de faire des selfies et de faire de la méditation de pleine conscience au pur présent. C'est un peu tragique. Et donc je crois que non. Alors ça, ne le prenez pas mal. Ça peut être très bien, des exercices de respiration et de méditation. Très bien. C'est un exercice. Mais ce n'est pas une sagesse. La sagesse, c'est que le présent est plein de passé. La perception... et imprégné de souvenirs, c'est comme le montre Proust merveilleusement, ou Bergson. Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Nos échanges, les mots, tout est plein de passé. La résonance des mots, quand on lit, quand on regarde un paysage bordelais, français. Et donc, ma façon de vivre le présent, c'est de le vivre intensifié par la présence du passé et de voir ce qu'il porte comme promesse d'avenir. Donc je suis pas du tout dans le ici et le maintenant, en effet.
Merci beaucoup, Charles Pépin. Je vous attends pour votre prochaine rédaction littéraire. J'espère que d'ici là, vous aurez réparé votre main. Merci encore.
Et oui, merci beaucoup.